Voice of Indonesia.
Bonsoir, c'est Rita. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, c'est Rita, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici le journal et on commence avec les titres. L'homme politique principal invite toutes les parties à respecter le résultat des élections. La communauté frontalière demande à l'élite politique de se réconcilier. L'Institut indonésien des sciences, ou LIPI, invite les millénaires à reconnaître divers types de biodiversité au Musée national d'histoire naturelle d'Indonésie. Aucun citoyen indonésien ne devient victime d'une bombe en Égypte. Le ministère de l'Agriculture continuera à négocier de l'Union européenne contre le sentiment négatif de l'huile de palme. Le déficit le plus élevé en avril, le gouvernement devrait se concentrer sur le contrôle des importations. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. L'homme politique senior Akbar Tanjung demande à toutes les parties à respecter le résultat final de la récapitulation du vote qui sera annoncé par la Commission électorale générale KPU mercredi le 22 mai. Comme l'a cité Antara, M. Akbar Tanjung, après avoir assisté au discours liminaire dans l'événement commémorant la journée de la résurgence nationale à Jakarta dimanche le 19 mai, a déclaré que la méthode de comptage rapide menée par plusieurs institutions de sondage avait été vérifiée. Il a souligné que la possibilité inexactitude de la méthode de comptage rapide est très faible. Cependant, il a également appelé toutes les parties au cas où elles trouveraient des indices de fraude électorale. Elles doivent immédiatement signaler les preuves aux autorités, soit au Conseil de surveillance des élections ou à la Cour constitutionnelle. Les habitants de la région frontalière des Philippines, notamment de la région des îles Sangihe dans le nord de Sulawesi, ont demandé à l'élite politique de se réconcilier immédiatement après l'élection pour des raisons d'unité nationale. Cela a été déclaré le président du Forum sur l'harmonie religieuse de Sangihe, M. Ambrosius Makassar, à Tahuna dimanche. Selon lui, il est important de réconcilier des élites politiques. Actuellement, est le moment de se réunir pour le progrès de la nation. Ambrosius Makassar a souligné que la communauté de la région frontalière aimait l'harmonie et l'unité, invité les élites politiques et tous les Indonésiens à donner la priorité aux intérêts de la nation. Il a apprécié également tous les habitants de la région parce que la fête démocratique se déroule bien. L'Institut indonésien des sciences invite les millénaires à reconnaître la biodiversité au Musée national d'histoire naturelle d'Indonésie à Bogor, dans l'ouest de Java. Eni Sudarmonowati, le haut fonctionnaire de l'IPI, a dit dimanche à Bogor que son parti a invité des membres de la communauté à susciter l'intérêt de la communauté. Eni Sudarmonowati espère que les efforts déployés lors de la commémoration de la Journée mondiale de la biodiversité qui se tiendra le 22 mai pourront susciter l'intérêt du millénaire et permettre à la communauté à venir au musée. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. L'ambassadeur d'Indonésie en Égypte Helmi Fauzi a confirmé qu'aucun citoyen indonésien n'avait été victime d'attentats à la bombe perpétrés sur le bus touristique sur la route près de la pyramide de Gizeh au Caire dimanche. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur Helmi dans un communiqué de presse reçu par Republika Online lundi. Une bombe placée sur la route près du site du Grand Musée égyptien dans la région de Gizeh cible un bus touristique transportant 25 touristes étrangers. La bombe a également fait exploser une voiture privée égyptienne et blessé 4 personnes. Selon les informations recueillies lors d'une perquisition à l'ambassade de la République d'Indonésie au Caire, cette attaque a utilisé des explosifs légers et fait 7 blessés parmi les ressortissants sud-africains et 10 égyptiens. Jusqu'à ce que cette nouvelle soit annoncée, il n'y avait aucune information sur les pertes de vies humaines. L'ambassade d'Indonésie au Caire a lancé un appel à tous les citoyens indonésiens en Égypte pour qu'ils accroissent leur vigilance et évitent les zones et les foules vulnérables. Les citoyens indonésiens qui font des visites touristiques en Égypte sont encouragés à se signaler via l'application Safe Travel. Le ministre de l'Agriculture continuera à négocier pour faire face aux sentiments négatifs de l'Union européenne sur l'huile de palme indonésienne sur le marché international. Kasdi Subagiono, le directeur général des plantations du ministère de l'Agriculture à Jakarta, a déclaré récemment: bien que les exportations aient augmenté, à l'avenir, ces exportations face aux défis. L'un des plus grands défis est le sentiment négatif de l'Union européenne envers l'huile de palme indonésienne. L'une des formes les plus récentes de sentiment négatif est la politique de la Directive sur les énergies renouvelables 2, ou RED 2, qui interdit le palmier à l'huile en biodiesel. D'après le ministère des Affaires étrangères, il y a encore une solution en discutant avec l'Union européenne. Ashifa Zami Ilham, chercheur du Centre d'études politiques indonésiennes, a souligné la nécessité de rester cohérent dans ses efforts pour surmonter le problème de déficit de la balance commerciale nationale. Selon lui, la solution la plus efficace à court terme qui est toujours faite est à contrôler les importations. Ceci étant fait généralement pour encourager l'augmentation de la valeur des exportations. Comme rapporté par Antara, Ashifa Zami Ilman a affirmé dans un communiqué de presse à Jakarta dimanche que le déficit de la balance commerciale de l'Indonésie en avril 2019 était le plus élevé depuis l'avril 2013. Le déficit a atteint 2,5 milliards de dollars américains, tandis que le nombre d'importations enregistrées a augmenté de 12,2% et que les exportations ont diminué à 10,8%. Il a ajouté que des facteurs internes et externes jouent un rôle dans la réalisation de la balance commerciale actuelle. Le facteur interne est la domination du produit brut comme principal produit d'exportation indonésien. En outre, la tension de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine est également devenue un sentiment négatif dans le commerce international. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Se lever pour unir ». Le 20 mai 1908, soit il y a 111 ans, la fondation de la première organisation de jeunesse en Indonésie, appelée Budi Utomo. L'organisation initiée par Dr. Wahidin Sudirohusodo a été fondée par Dr. Sutomo et les étudiants de la faculté de médecine des Andes néerlandaises au Stovia, à l'époque où l'Indonésie était encore colonisée par les Hollandais. Budi Utomo est une organisation sociale, économique et culturelle, mais pas politique. Mais la création de Budi Utomo a marqué le début d'un mouvement visant à obtenir l'indépendance de l'Indonésie. Le 20 mai est célébré la Journée nationale de l'éveil. Le thème de la Journée nationale de l'éveil de cette année est « Se lever pour unir ». Le thème est très pertinent pour la situation actuelle du peuple indonésien après les élections d'avril 2019. Lorsque l'énergie et les émotions de la majorité du peuple indonésien sont épuisées pour le succès électoral, lorsque les aspirations du peuple indonésien sont divisées en raison de différences de choix, il est le moment pour la nation indonésienne de ressusciter et de s'unir. À l'époque coloniale néerlandaise, la lutte du peuple indonésien pour l'indépendance était toujours régionale. Chaque région d'Indonésie tente d'échapper au colonialisme. Mais l'indépendance attendue n'est pas encore atteinte en raison du manque d'unité de la société indonésienne. Finalement, l'organisation de jeunesse Budi Utomo a été créée le 20 mai 1908, suivie du deuxième congrès de la jeunesse tenu le 28 octobre 1928, qui a produit le serment de la jeunesse qui exprimait la détermination du peuple indonésien à s'unir. L'indépendance de l'Indonésie il y a 74 ans a été commencée avec la montée d'un sentiment d'unité parmi la jeunesse et les fondateurs de la nation. Le moment est venu pour le peuple indonésien de se relever de divers problèmes qui conduisent à la division et rester unis pour le progrès et la mise en œuvre du développement dans tous les domaines. Cela fait plus d'un siècle que le peuple indonésien a établi un record de respect et d'appréciation pour le pluralisme de la nation qui a été marqué par la création de l'organisation Budi Utomo. Dans des conditions de pluralisme de langue, d'ethnie, de religion et de culture, ainsi que géographie sont les plus extrêmes du monde. La nation indonésienne peut se montrer capable de maintenir l'unité jusqu'à présent. Le peuple indonésien ne voulait pas que le fondateur du pays pleure, car l'unité qui a été initiée laborieusement avant l'indépendance est déchirée à cause des différences de choix en matière d'élection. C'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 20 mai. Le 20 mai 1908, la journée nationale du réveil. Tous les 20 mai, le peuple indonésien commémore la journée nationale du réveil, le jour qui a marqué l'élan de la lutte de tout le peuple indonésien a été marqué par la naissance de l'organisation Budi Utomo en 1908. La création de Budi Utomo est devenue le début d'un mouvement visant à obtenir l'indépendance de l'Indonésie. À en juger par l'histoire de la formation de Budi Utomo, qui a été fondée par de jeunes gens éduqués, il convient que les Indonésiens aient la même passion pour la montée de l'Indonésie. La résurrection pour progresser, vivre et se développer parallèlement au développement de la science et de la technologie. Le 20 mai 2002, le Timor-Leste est séparé de l'Indonésie. La République démocratique du Timor-Leste, qui est aussi appelée Timor Lorosae, ou Timor-Est, est un petit pays au nord de l'Australie et à l'est de l'île Timor. En outre, le territoire de ce pays comprend également les îles Kambing ou Atauro, Jaco et l'enclave de Susi Ambeno à Timor occidental. Le Timor-Leste était l'une des provinces indonésiennes. Le Timor-Leste a été officiellement libéré de l'Indonésie le 20 mai 2002. Lorsqu'il est devenu membre des Nations Unies, le pays a décidé d'utiliser le nom portugais Timor-Leste comme nom officiel de leur pays. Le 20 mai 2008, Ali Sadikin est décédé. Ali Sadikin est l'ancien gouverneur de DKI Jakarta, également appelé Bang Ali. Il est décédé à l'âge de 82 ans, le mardi 20 mai 2008. Ali Sadikin est l'homme qui a le plus de mérite de construire la ville Jakarta. Il a reçu un signe honorifique du Bintang Mahaputra Adi Pradana car il est considéré comme un mérite exceptionnel pour l'État et la nation, en particulier pour le développement de la ville Jakarta en tant que métropole. Le président Sukarno a nommé le fils de ce pays né à Sumedang le 7 juillet 1927 gouverneur de Jakarta à l'époque des années 60 parce qu'il était considéré comme têtu. Il a réussi à diriger et à construire la ville Jakarta précisément à cause de sa nature sévère. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Bisa berpaling.
serviteur, c'était la chanson intitulée Doa chantée par René Jayusman. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia d'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie intitulé Mandalika à Lombok est un nouveau point économique. Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie et pour le titre Mandalika à Lombok est un nouveau point économique. La zone économique spéciale ZES de Mandalika, située dans la région centrale de Lombok, à l'ouest de Nusa Tenggara, est prête d'être une zone touristique intégrée de classe mondiale. Sous la gestion de la Société indonésienne de développement du tourisme, ZES Mandalika serait en mesure de présenter des offres de tourisme naturel combinées à la richesse culturelle distinctive de Lombok et plus des performances de courses de classe mondiale. Mandalika est également considéré comme un nouveau point économique en dehors de Java. Le président Joko Widodo s'est également intéressé à la zone économique spéciale de Mandalika. Ceci peut être vu lors de la deuxième visite à Mandalika vendredi. Il souhaite voir directement les projets de développement de la zone économique spéciale de Mandalika, notamment le circuit MotoGP. Le président Joko Widodo, lors d'observer cet emplacement, a déclaré qu'il était confiant que le développement de la zone économique spéciale de Mandalika pourrait amener Lombok à devenir une destination touristique excellente outre Bali. Il espère que le développement du circuit de course et de toutes les installations complémentaires pour le titre MotoGP dans la zone économique spéciale de Mandalika sera achevé au plus tard en janvier 2020, de sorte qu'en 2020, toutes les installations souhaitées par le MotoGP soient vraiment prêtes. Le président Jokowi a déclaré que diverses installations avaient été construites pour soutenir la zone économique spéciale de Mandalika et le circuit de MotoGP, y compris les aéroports, les infrastructures routières jusqu'aux hôtels. Le président Joko Widodo a ajouté que la mise en œuvre du MotoGP était un effort du gouvernement pour faire bouger l'économie à Lombok et pouvait même influencer la croissance économique nationale. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku deketimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanda dalam diri, tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Thank you.
tanam dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku dekatimu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi bersamamu kasih. Cukup tahu tanam dalam diri. Tak usah ku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi, tak mau lagi sayang.
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Cukup Tahu, chantée par Rizky Febian. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditeurs, c'est un plaisir de vous rencontrer à nouveau dans le magazine culturel en programme quotidien sur le tourisme, l'alimentation ainsi que les arts et la culture de diverses régions en Indonésie. Dans l'édition d'aujourd'hui, je vais vous présenter Besema, une maison traditionnelle dans le sud de Sumatra. Certaines îles d'Indonésie ont été occupées par des peuples traditionnels de différentes tribus. Alors, ne soyez pas surpris si l'Indonésie a une variété d'alphabétisation, la langue, les vêtements traditionnels jusqu'à la maison traditionnelle. Parmi ces cultures, une maison traditionnelle est une référence qui décrit la culture d'une tribu. La maison traditionnelle Besema, ou aussi appelée maison Bagi, est utilisée depuis des siècles par les ancêtres du peuple Besema Pagar Alam. Le type de la maison Besema est divisé en deux, tatahan et gilapan. Tatahan est une partie de la maison, en particulier les murs sculptés, tandis que gilapan est une maison avec les murs unis. Les deux ont une taille similaire, à savoir 8 x 8 mètres. L'intérieur de la maison ne comprend qu'une seule pièce large sans cloison. Mais certaines maisons sont conformes à l'ère du développement et dans la pièce de la maison, il y a une partition. La partie de la cuisine appelée paun est construite séparément. La construction de la maison Bagi est très unique. Pour unir des parties de la maison, on n'utilise aucun clou. Le rotan est utilisé s'il y a des pièces qui doivent être attachées. De même, son pôle n'est pas planté dans la terre. Ses pôles se tiennent sur un piédestal de pierre. Dans l'ancienne construction, la pierre est utilisée pour tous les poteaux en triangle. Le long de l'histoire à Pagar Alam, qui est proche de la montagne d'Empo, la maison de Bagi n'est jamais effondrée, même si la région est souvent frappée par des tremblements de terre. Chers et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Besema, une maison traditionnelle dans le sud de Sumatra ». Demain, nous nous retrouverons avec un nouveau sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Rosa intitulée Tegar. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers amis. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, un programme qui introduit le vocabulaire de la langue indonésienne et vous guide de parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre la Voix d'Indonésie, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie. Le sujet aujourd'hui est « Silakan masuk » ou en langue française « Entrez s'il vous plaît ». Ensuite, je vais donner un exemple de conversation ayant pour titre « Silakan masuk » ou en langue française « Entrez s'il vous plaît ». Joko a rencontré et présenté son épouse Dinda à Tony. Joko a invité Tony à boire le café disponible.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Après avoir écouté cette conversation, je vais introduire les expressions et le vocabulaire sur le thème d'aujourd'hui, à savoir silakan masuk. Silakan masuk. En français, entrez s'il vous plaît. Je vais prononcer deux fois et vous pouvez répéter après moi. Kopi. Kopi. En français, café. Silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya. En français, s'il vous plaît, buvez le café. Enak. Enak. En français, délicieux ou délicieuse. Itu kopi luwak. Itu kopi luwak. En français, c'est du café civet. Kamu tidak minum? Kamu tidak minum? En français, tu ne bois pas? Saya sedang puasa. Saya sedang puasa. En français, je jeûne. Silakan masuk. Silakan masuk. En français, entrez s'il vous plaît. Silakan duduk. Silakan duduk. En français, veuillez vous asseoir. Saya hanya sebentar. Saya hanya sebentar. En français, je suis seulement pour un moment. Le mot pour inviter les autres Indonésiens est silakan. Silakan, en français, s'il vous plaît. Des exemples de leur utilisation dans des situations d'accueil. Silakan minum kopinya. Silakan minum kopinya. En français, s'il vous plaît, buvez le café. Silakan masuk. Silakan masuk. En français, entrez s'il vous plaît. Silakan duduk. Silakan duduk. En français, veuillez vous asseoir. Lorsque vous êtes invité à faire quelque chose mais que vous ne le voulez pas ou que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le refuser poliment. Exemple, silakan masuk. Silakan masuk. En français, entrez s'il vous plaît. Maaf, di sini saja. Maaf, di sini saja. En français, désolé, juste ici. Saya hanya sebentar. Saya hanya sebentar. En français, je ne suis que pour un moment. Les autres exemples. Silakan coba kuenya. Silakan coba kuenya. En français, goûtez le gâteau s'il vous plaît. Maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. En français, désolé, je jeûne. Chers auditeurs, avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour plus de détails, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Silakan minum kopinya.
Oh, terima kasih. Enak.
Ya, itu kopi luwak.
Kamu tidak minum?
Saya sedang puasa.
Oh, maaf.
Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'indonésien pour ce soir. Que cette rubrique soit utile pour vous qui voulez connaître davantage la langue indonésienne. Rendez-vous demain avec un autre sujet plus intéressant. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Voice of Indonesia.
Ku pendam tertahan di bibir.
Chers auditeurs, c'était la dernière chanson intitulée Jenu, chantée par Rio Febrian. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Cette fois-ci, nous allons écouter une chanson religieuse intitulée Ya Rahman, Ya Rahim. La chanson intitulée Ya Rahman, Ya Rahim, chantée par Krisdayanti, se trouve dans l'album religieux intitulé Menuju Kemenangan ou à la Victoire, sorti en 2012. Cet album contient une compilation d'artistes de différents labels célèbres indonésiens, entre autres Opik, Gita Gutawa, Rosa, Ungu, Ahmad Dhani, Emulan Jamila, et Krisdayanti. La chanson de Ya Rahman Ya Rahim parle d'Allah qui aime toutes ses créatures. Avec le Rahman, il a créé l'univers et tout son contenu. Avec le Rahim, il pardonne tous les péchés de ses créatures en donnant des instructions de la vie. Cette chanson montre également une profonde gratitude pour toutes les bénédictions que Dieu a données. Le fort caractère vocal de Krisdayanti et les belles paroles de chanson rend cette chanson agréable à écouter. D'accord, chers auditeurs, écoutons Krisdayanti avec la chanson intitulée « Ya Rahman, Ya Rahim ».
Betapa kau mengasihi kami dengan rahmanmu kau ciptakan semesta ini dengan rahmanmu kau terangkan di siang hari dengan rahmanmu kau berikan udara air di setiap waktu setiap penjuru. Ya Allah, betapa kau menyayangi kami dengan rahimu kau ampuni dosa kami dengan rahimu kau berikan jalan lurusmu dengan rahimu kau berikan cinta abadi yang hanya untukmu hanya untukmu dengan rahimmu kau ampuni kau berikan jalan lurusmu. Dengan rahimmu kau berikan cinta abadi yang hanya untukmu. Hanya
Voice of Indonesia.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.